Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Curious Live, l'émission des étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale. Léa et moi vous souhaitons la bienvenue pour le deuxième épisode de cette saison, ayant pour thème la communication inclusive. Alors, dans la communication inclusive, le langage y tient une part très importante, et il reste évidemment un sujet qui est à mettre en lumière. Parmi des thèmes récurrents qu'on a beaucoup vu émerger ces dernières années dans les médias, on va justement retrouver l'écriture inclusive. Le but de l'écriture inclusive, c'est avant tout de tenir compte de tous les individus et de leur singularité, en incluant du coup leur unicité dans les différentes formes de langage utilisées. En fait, si on part d'un constat simple, la langue française, c'est un outil qu'on peut qualifier d'assez classique, dans le sens où il est utilisé au quotidien par tout le monde. Mais grâce à l'écriture inclusive, justement, on va retrouver ce pouvoir transformatif des mots. La langue va devenir un outil qui témoigne de l'évolution des sociétés, l'évolution des valeurs aussi, mais ça va également être une arme pour combattre les inégalités, que ce soit au niveau du genre ou de l'origine par exemple. Pour approfondir le sujet, justement, Marc Mellet, cofondateur de l'agence Moutarde, agence de communication dijonnaise, est aujourd'hui notre invité pour cette émission. Mais avant ça, Léa, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'écriture inclusive ?
Oui, bien sûr. Alors, si on se reporte à la définition qui a été donnée par l'agence de communication Mot-Clé récemment, l'écriture inclusive, on peut la définir comme cela. L'ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes. Alors c'est un terme qui est assez récent puisqu'il est apparu seulement en 2017 dans la sphère médiatique, à peu près en même temps que les hashtags MeToo et Balance ton porc, qui sont deux mouvements de libération de la parole des femmes face aux violences sexuelles. Donc c'est une notion qui reflète aussi l'importance des enjeux contemporains, l'évolution des valeurs et le combat pour l'égalité homme-femme avec une volonté particulière de dégenrer les noms, les pronoms, les verbes, etc. Mais ce qui est assez curieux, c'est que selon une étude menée par Google en 2021, qui s'appelle A Year in Search, et qui répertorie les mots et expressions les plus recherchés sur le moteur de recherche, eh bien on se rend compte qu'en 2021, en France, l'expression écriture inclusive cumule un total de 2 millions de recherches. C'est quand même assez énorme, et c'est une augmentation de 180% par rapport à l'année 2020.
Mais justement, qu'est-ce qui peut expliquer ce pic d'intérêt soudain pour le sujet ?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça peut être lié au débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale à ce moment-là, en 2021, avec une proposition de loi qui avait été déposée par François Jolivet. Et cette proposition, elle avait avant tout pour but de pénaliser et d'interdire l'usage de l'écriture inclusive dans les écoles et dans les institutions publiques, parce qu'elle était jugée, je cite, « trop élitiste et excluante pour les élèves en difficulté », selon Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a une autre raison aussi qui peut expliquer l'ampleur du phénomène, c'est l'arrivée dans le dictionnaire Le Robert du mot « iel », I-E-L, contraction des pronoms « il » et « elle ». Alors tout ça, ça témoigne d'un manque d'information et de communication de la population, mais aussi, d'une manière plus positive, d'une curiosité grandissante, d'une envie d'en apprendre plus sur le sujet. Et puis, on voit aussi que si on s'intéresse aux trois thèmes les plus recherchés par les internautes à propos de l'écriture inclusive, eh bien, il y en a trois qui ressortent plus particulièrement. En première position, on a déjà une envie de comprendre, avec des recherches du style « c'est quoi l'écriture inclusive ?». Après, on a une envie d'apprendre et puis de pratiquer, avec des recherches comme les règles et utilisations de l'écriture inclusive. Et puis enfin, on a une volonté aussi de s'informer, avec des recherches comme « qui utilise l'écriture inclusive ?».
Alors justement, Léa, les Français font de plus en plus attention à l'écriture inclusive, mais de manière générale, qu'est-ce qu'ils en pensent au fait ?
Alors si on se rapporte à la même étude qui avait été menée par Google en 2021, 58% des internautes qui ont déjà entendu parler de l'écriture inclusive se déclarent défavorables à son utilisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on creuse un petit peu plus la question, on s'aperçoit que c'est pas l'écriture inclusive en général qui leur déplaît, mais seulement deux aspects particuliers. Le premier, c'est les néologismes, avec des mots comme « factrice », par exemple, qui est un mix de « facteur » au masculin et « factrice » au féminin. Et puis la deuxième chose, c'est le point médian, parce qu'il y a énormément de règles qui sont difficiles à comprendre, difficiles à lire aussi pour les personnes dyslexiques notamment. Mais ce qui est intéressant de relever, c'est que la majorité de ces mêmes internautes sont en fait en grande partie favorables à la féminisation des noms de métiers, ou à l'utilisation de mots dits non-genrés, comme le fait d'utiliser la direction au lieu des directeurs, par exemple. Et donc, cette étude, elle montre que c'est pas le concept même de l'écriture inclusive que la population française rejette, comme on le pense trop souvent, mais que c'est seulement certaines méthodes en particulier, et que, en majorité, le public est favorable à l'utilisation de termes qui seraient alternatifs au masculin générique.
Mais justement, de quoi est-ce que ça peut témoigner ?
Alors tout ça, ça témoigne déjà principalement d'une volonté de faire évoluer la langue française, évoluer déjà vers plus de représentativité, plus d'inclusion, aussi de stopper la domination du masculin sur le féminin, et de montrer aux enfants, dès le plus jeune âge, qu'il n'y a pas de genre prépondérant dans la langue française. D'ailleurs, Julie Neveu, qui est maîtresse de conférences en linguistique, a affirmé dans une interview pour Le Figaro que, je cite, « l'écriture inclusive est essentielle pour établir une égalité entre les hommes et les femmes ».
Merci Léa pour ces précisions. Alors comme vous venez de l'expliquer, l'écriture inclusive c'est donc un allié précieux pour servir le combat contre les discriminations de genre, mais pas seulement. Elle peut s'avérer également bénéfique pour combattre les stéréotypes, dont on vous avait justement parlé dans notre première émission. Ça passe également par le bannissement de certaines expressions, quand on va se mettre par exemple à la place de personnes qui peuvent se sentir discriminées ou blessées lorsqu'elles les entendraient. Léa, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ?
En effet, on a un désir de la société de prôner le vivre ensemble, l'égalité entre tous. Et tout ça, ça se démontre à travers le langage. On le remarque surtout au niveau artistique. Parce que si c'est pas les auteurs d'œuvres jugées offensantes qui changent par eux-mêmes leurs œuvres, ça va être l'évolution des mentalités qui va les obliger à le faire. Et par exemple, on l'a vu en 2022 avec des romans de Roald Dahl, qui est le célèbre auteur de Mathilda, Charlie et la chocolaterie, etc., avec certains de ces romans qui ont été modernisés pour être rendus moins offensants, que ça soit au niveau du genre ou de l'apparence de certains personnages. Alors certaines personnes ont dénoncé une censure, ils ont défendu l'idée de la liberté d'expression, mais ça n'a pas été le cas de la maison d'édition Puffin Books, qui a défendu ces changements pour que les enfants d'aujourd'hui puissent, je cite, « continuer à lire en s'émerveillant ». Mais alors, on peut se poser la question des œuvres anciennes qui comportent des termes jugés offensants ou qui sont aujourd'hui proscrits. Qu'est-ce qu'il faut en faire, finalement ? Est-ce qu'il faut les laisser comme telles parce qu'elles reflètent les pensées de la société de l'époque ? Est-ce qu'il faut y ajouter un avertissement qui détaille le changement de l'utilisation de certains mots ? Est-ce qu'il faut plutôt modifier la nature de l'œuvre en elle-même au risque d'être accusé d'une certaine réécriture ? Ou bien est-ce qu'il faut carrément la bannir ? Je vais vous laisser juger par vous-même.
Alors justement, en parlant de l'œuvre de Roald Dahl, on peut remarquer que les adaptations de ces livres, elles datent pas d'hier. Par exemple, dans les années 70, bien avant Tim Burton, on remarque qu'il y avait déjà eu une première adaptation de Charlie et la chocolaterie au cinéma. Dans ce long métrage, justement, une chanson phare, Pure Imagination, interprétée par l'acteur principal Gene Wilder, est remise au goût du jour il y a quelques années avec son utilisation dans une publicité. Chanson phare, justement, que nous vous proposons d'écouter. À tout de suite sur RCF en Bourgogne.
Ladies and gentlemen, boys and girls, the chocolate room. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation, what we'll see will defy explanation.
C'est le MAG sur RCF en Bourgogne, avec les étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale, Flavien Bert.
Nous sommes de retour dans le Curious Live. Alors avant la pause, on vous parlait avec Léa de l'essor de l'écriture inclusive et des débats autour de ce sujet. Pour répondre à nos questions d'un point de vue professionnel, on est aujourd'hui en compagnie de Marc Mélé, cofondateur de l'agence Moutarde, agence de communication dijonnaise. Marc, bonjour. Merci de votre présence.
Merci à vous.
J'ai une première question d'abord. Selon vous, quelle est la démarche d'un client qui souhaite désormais intégrer l'écriture inclusive à ses campagnes de communication ? Est-ce que vous pensez que c'est tous les supports qui sont concernés ou il y en a certains qui seraient écartés ?
Alors, je pense que c'est un mouvement qui a tendance à être assez poussif, malheureusement. Les sujets remontent pour les premières grandes tendances politiques des années 80. Il a fallu plusieurs circulaires pour pouvoir lancer un peu plus activement la démarche. 2017, c'est vraiment le début de la féminisation des noms des métiers. Et c'est là où commencent et s'amplifient les polémiques sur un sujet qui traîne au fond des placards. La véritable problématique, on l'analyse en agence sous deux typologies de clients. La première, c'est les grandes entreprises pour lesquelles on va avoir une formation, une initiation en fait à cette forme d'écriture, à cette forme de communication, où on va avoir des demandes justement de la part du client dans ses briefs. Mais bien souvent, ça ressemble plus à une obligation de pouvoir cocher la case plutôt qu'une véritable démarche. Alors, je fais des généralités, mais bien évidemment, tout le monde n'est pas dans le même cas. Pour les plus petites entreprises, on est sur une approche qui est totalement différente. Les entreprises n'ont pas du tout la notion d'utilisation nouvelle, en fait, du vocabulaire, de la féminisation des termes, etc. Ça ne fait pas du tout partie de leurs attentes, de leurs demandes. En agence, c'est plutôt simple. On a pour mission de simplifier, de faire passer un message, d'être plutôt actif, et on va être jugé sur le résultat. Les slogans, les punchlines, elles sont obligatoirement nécessitées de sonorité, de musicalité, de mémorisation, etc. Et du moment où on va complexifier un petit peu la forme, qu'on va y ajouter un peu plus de lettres qu'initialement prévues, que ce qui est connu par le commun des mortels, on va évidemment complexifier le message et on va dissoudre en fait ce message dans ce qu'on va pouvoir appeler peut-être des fioritures. C'est pas forcément le terme parce que je ne prends pas de position sur ce sujet, mais on va complexifier en fait, on va y ajouter des lettres. Ça, c'est pour les petites entreprises, elles sont pas du tout dans cette attente. De même manière, quand on achète un espace publicitaire, que ça soit sur une radio, que ça soit sur un affichage en 4x3 ou une sucette d'un arrêt de bus, on va avoir un espace-temps ou un espace qui va nous être délimité. On ne va pas avoir autant de possibilités d'utiliser tous nos panels de mots, notre vocabulaire le plus complexe possible. Il va falloir qu'on soit percutant et efficace. Donc, on va avoir, bien évidemment, des choix à faire. L'alternative, selon moi, c'est l'épicène, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mots qui ne sont non genrés pour en fait détourner un petit peu la problématique et utiliser des termes beaucoup plus abordables et compréhensibles pour l'ensemble de nos cibles. Il y a quand même quelque chose de très complet et de très complexe à appréhender, c'est que la langue française, vous le disiez en introduction, est une langue assez complète. Il faut penser aussi à l'apprentissage. Du moment qu'on n'impose pas en fait une nouvelle réglementation, une nouvelle loi sur l'écriture, sur le genre des mots, on ne va pas pouvoir faire évoluer les choses. La langue française étant une des langues les plus complexes à assimiler, on va rajouter en plus pour nos jeunes, nos étudiants, les étrangers qui veulent s'intégrer, auront de plus en plus de mal justement aussi à intégrer ces nuances, et on va peut-être, je pense, plus travailler sur le fond du problème que la forme. C'est ce qui me semble le plus important sur le sujet.
Alors, en parlant justement de la difficulté d'appliquer l'écriture inclusive aux médias oraux, tout comme au support visuel, est-ce que Marc, de votre côté, vous avez eu l'opportunité d'être formé à l'écriture inclusive, ou est-ce qu'il faudrait, selon vous, proposer une formation à ce sujet pour ces différents clients?
Alors, formé, non. Informé, oui. Parce que dans nos métiers, on est constamment en train de faire de la veille, on est constamment en train de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, on écoute évidemment les lois, on essaie de les comprendre, on assimile un maximum d'informations, l'objectif étant d'être juste. Et je pense que c'est plutôt un sujet sociétal qu'il faut prendre sur le fond, comme je disais juste avant, et pas forcément trop sur la forme, surtout dans nos métiers où on a le temps nous est compté, les mots nous sont comptés, et donc on essaie d'être le plus impactant possible. Alors autant faire des campagnes qui soient efficaces sur le fond plutôt que sur la forme.
Alors justement, en parlant du fond de la forme, on peut voir qu'il y a certaines marques qui ont été saluées pour leur utilisation de l'écriture inclusive dans différentes campagnes de communication, je pense notamment à Netflix ou à Zalando, mais si c'est un geste qui peut a priori avoir l'air inclusif et évolutif, on remarque que c'est bien souvent une question de profit avant tout, en fait. L'écriture inclusive, c'est plutôt un sujet d'efficacité publicitaire qu'un réel sujet éthique d'inclusion. En effet, aujourd'hui, elle est très peu présente en réalité sur les différentes affiches, et c'est pour ça qu'elle va attirer l'attention par sa singularité. Ça a constitué un souvenir publicitaire, tout simplement. Mais même si elle semble profitable aux marques, en son utilisation de différentes campagnes de communication, elle présente également des risques. Léa, justement, est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'une marque qui a provoqué un bad buzz après avoir utilisé l'écriture inclusive?
Alors oui, je pense pas forcément à une campagne de communication en particulier, mais plus à une grande marque, Cultura, qui en 2020 avait provoqué un énorme bad buzz parce qu'elle avait utilisé l'écriture inclusive dans un de ses mails de confirmation de commande. Et ça avait été très mal reçu par le public à l'époque. Et la marque s'était défendue sur les réseaux sociaux en attaquant les personnes qui n'étaient pas d'accord et qui se plaignaient en leur disant tout simplement de partir si elles n'étaient plus en accord avec les valeurs de la marque. Donc ça a été très très mal reçu. Parce que pour les internautes et les clients, la marque était censée représenter la langue française, le savoir-vivre à la française, le sérieux finalement, et non pas surfer sur la tendance comme ils l'ont fait.
Alors on peut se demander justement si l'écriture inclusive c'est seulement une tendance passagère ou si c'est vraiment une évolution communicative durable. Marc, justement, qu'est-ce que vous en pensez ?
La déconstruction des stéréotypes sexistes doit se faire sur le fond plutôt que sur la forme. Pour conclure, en agence de communication, notre métier est d'obtenir des résultats dans chaque campagne de nos clients et de s'adapter aux attentes et aux contraintes qui nous sont émises par nos clients. L'adaptation fait toujours partie de l'équation et à l'agence Moutarde, je me réjouis du génie de mes collaboratrices qui conjuguent avec talent le fond et la forme pour obtenir de super résultats à chaque fois, le tout saupoudré de belles valeurs.
Merci beaucoup Marc d'avoir partagé avec nous votre ressenti à ce propos. Alors comme vous le dites, il n'y a personne qui est vraiment d'accord au sujet de l'écriture inclusive, ça va contribuer à alimenter les controverses. Parmi celles-là, l'écriture inclusive serait vue par certains comme un frein à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Léa, vous êtes renseignée sur le sujet, je crois. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Alors, les avis sont très mitigés, effectivement, sur la question. On a plusieurs groupes, plusieurs associations qui militent contre l'écriture inclusive. Et c'est le cas, par exemple, de la Fédération des aveugles de France, qui juge cette écriture, je cite, « illisible, incompréhensible, proprement indéchiffrable par les lecteurs d'écran, notamment pour les personnes malvoyantes, aveugles, ou même les personnes dyslexiques, parce que c'est un système qui peut renforcer leurs difficultés de lecture. Et on a aussi l'ancienne secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, qui pense que l'écriture inclusive est une régression pour l'accessibilité universelle, contraire à tous les efforts en FALC, donc FALC qui signifie « facile à lire et à comprendre ». Et puis d'un autre côté, on a des groupes de handiféministes qui dénoncent une récupération du handicap pour justifier des positions anti-écriture inclusive, et donc un mouvement qui serait anti-égalité des sexes, anti-droits des femmes par la même occasion.
Mais alors justement, est-ce qu'il existe des solutions pour remédier à ces problèmes ?
Alors le problème, c'est peut-être pas l'écriture inclusive en elle-même, qui d'ailleurs ne se réduit pas au point médian, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que le problème de fond, il viendrait des logiciels de synthèse utilisés par les personnes en situation de handicap, qu'il faudrait mettre à jour ou bien rendre plus puissants. Je pense aussi qu'il faut profiter de notre accès aux nouvelles technologies et en faire une force pour l'inclusion. Et puis, selon les collectifs handiféministes, il y aurait une autre option aussi, qui serait d'utiliser des traits d'union à la place des points médians, parce que eux sont parfaitement lisibles par les tablettes.
Merci beaucoup Léa pour ces précisions. En effet, vous venez de le mentionner, l'écriture inclusive est au cœur de différents enjeux. A pour objectif également de contribuer à une évolution positive de la société, notamment à travers l'égalité femmes-hommes. Mais la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, justement, ça reste une des critiques majeures de ce style d'écriture, car il est jugé comme trop excluant. Les personnes en situation de handicap, faut rappeler qu'elles représentent 14% de la société française, donc les différents enjeux communicationnels qui leur sont destinés y demeurent essentiels. C'est pourquoi, justement, on y consacrera une émission spéciale. C'est déjà la fin de cette émission. Nous remercions à nouveau grandement Marc Mellé, cofondateur de l'agence Moutarde, d'avoir été avec nous en plateau afin de nous livrer son ressenti à propos des enjeux de l'écriture inclusive. Un grand merci à vous également, chers auditeurs de RCF en Bourgogne. Le replay de ce numéro, il est disponible sur rcf.fr, rubrique culture sous le nom C'est le mag étudiant Massy. Et pour continuer la discussion justement autour de ce sujet de l'écriture inclusive, l'article dédié est disponible sur le Curious blog junioragencemassy.fr/blog. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci, Arnaud.
Il est 18h30, c'est l'heure de votre journal local.